Quelle grâce d'être dans la maison de Dieu. Vous en êtes conscient? Il y a un sujet qui revient très 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 régulièrement dans le Saint-Livre, c'est le sujet du bonheur. Dans ce monde qui ne connaîtra jamais le bonheur, les chrétiens ils peuvent y aspirer. Alors je vais vous donner beaucoup de textes et je voudrais que vous les méditiez, car c'est un sujet quand même qui nous intéresse, oui ou non? Est-ce que c'est important d'être heureux? Dieu veut que l'on soit heureux, même dans un monde difficile. Alors il y a un texte qui revient à la fois dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, j'ai pris celui de l'Ancien, dans le psaume 34, verset 13. Il y a beaucoup de questions, Dieu les pose les questions pour qu'on y réponde. Dieu ne pose pas des questions bêtes comme nous, nous pouvons parfois poser des questions inutiles. C'est pas vrai que des fois on pose des questions inutiles? Voilà. Mais Dieu pose des questions, elles sont toutes sensées, elles ont toutes un but, c'est que nous apprenions quelque chose. Dans le psaume 34, donc, du verset 13, qu'a-t-il écrit? Ce texte, il y revient également dans l'épître de Pierre, je crois que c'est 1 Pierre 3, vous pourrez le vérifier. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alors donc, il y a des conseils qui sont donnés. Mais on va voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Est-ce que la paix, on peut la perdre? Ben oui. Et chaque fois qu'on la perd, il faudrait la rechercher et la poursuivre. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc là, il y a une question. Est-ce que quelqu'un veut aimer la vie? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent aimer la vie? Ne levez pas tous la main, c'est pas. Mais c'est une question, c'est Dieu qui la pose. Si Dieu la pose, c'est que bien sûr il peut y répondre. Alors regardez par exemple dans le livre des Actes, c'est au chapitre 4 si je ne me trompe pas. C'est David, alors, je crois que je me suis trompé. Non, c'est dans Romains. C'est dans Romains au chapitre 4. David exprime le bonheur. C'est important, mes frères et sœurs. Moi, ça me fait mal au cœur de voir tant de chrétiens qui sont tristes. Alors, on peut être attristé. Mais ça devrait être très court. Romains chapitre 4, regardez ce qui est écrit. Alors, je vous encouragerai après, par le biais d'une concordance, à prolonger vous-même cette étude. Romains chapitre 4, regardez au verset 6. Regardez bien. C'est un sujet que j'aborde jamais, pour ainsi dire. Mais je vous assure, il y a quelqu'un ce soir certainement que Dieu veut rendre heureux. Romains 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur. Donc, il l'a connu. Vous êtes d'accord avec moi? S'il l'exprime, c'est qu'il l'a connu. De l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, David exprime le bonheur. Dans le psaume 4, alors on va faire plusieurs lectures, on va pas pouvoir s'arrêter sur toutes, mais il faut les faire ces lectures. Dans le psaume 4, il pose la question. Il pose la question, il se fait d'ailleurs le porte-parole de plusieurs chrétiens, sûrement, avec qui ils ont dû en discuter. Est-ce qu'on peut discuter entre frères et sœurs du bonheur? Ben oui, on peut se retrouver, tiens, dans ce monde, en 2016, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Et là, on voit que David pose la question en se faisant, je le répète, le porte-parole de plusieurs frères ou sœurs avec qui il se trouvait. Psaume 4, verset 7. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Donc vous voyez, c'était un sujet qui préoccupait les gens à l'époque aussi. Le bonheur a toujours préoccupé les gens d'ailleurs. Mais c'est bien, vous voyez, c'est dans la Bible, ça prouve que c'est normal que nous en discutions. Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand t'abondent leur froment et leur mou. Si on traduisait en français courant, on dirait quand t'abondent leur carte bleue. D'accord? Eh oui, c'est vrai ce que je vous dis. Le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur? Si vous deviez répondre ce soir sur une fiche, en 10 réponses, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que vous écririez? Qu'est-ce que vous écriez? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? C'est être heureux Sur quel point? Ah, moi, c'est sur le plan sentimental. Est-ce que ça fait partie du bonheur, être heureux sur le plan sentimental? Est-ce que de réussir sa vie professionnelle, c'est important aussi? Est-ce que c'est, tiens, j'ai réussi professionnellement, est-ce que ça peut procurer du bonheur? Bien sûr que oui. C'est des choses merveilleuses de réussir sentimentalement, de réussir professionnellement, etc. Et ça serait malhonnête, vraiment malhonnête. Parce que vous saviez, des chrétiens, ils sont tellement spirituels que le matériel, non, le matériel, ça ne rend pas heureux. Soyons honnêtes entièrement. Parce que vous savez, il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'hypocrisie. Et il faudrait vraiment être malhonnête pour dire qu'un bon travail, une bonne santé, une bonne famille, avoir de l'argent, ça ne contribue pas au bonheur. C'est vrai, ça permet quand même d'apprécier la vie. Oui ou non? C'est clair. Et c'est vrai que c'est facile de dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». Il y a un petit proverbe français qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors, toutes ces choses, on peut en parler d'une manière intelligente. Mais voilà, le bonheur, ce n'est pas que ça. C'est plus que ça. Certaines choses que la vie nous accorde contribuent à avoir du plaisir. Mais il y a des choses que l'argent, le matérialisme, que la vie sentimentale, que la vie professionnelle ne peut pas accorder. La réponse, on l'a lu au verset 8, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en ont, quand abondent toutes ces choses. » Vous êtes d'accord? Il fallait bien l'exprimer avec des mots. Donc, il y a des choses que la vie nous donne, mais il y a un bonheur plus grand que ça encore. Et David l'exprime. Est-ce que David a eu des choses que nous n'aurons jamais? Le roi David, vous avez vu tout ce que David a eu? David a été roi. Est-ce que vous serez roi, vous? À la chandeleur, peut-être, avec la couronne, vous savez? Une fois par an, de temps en temps, vous savez, quand vous tombez sur la fève, bon, mais c'est quand même limité. Et il a fait des choses. Il a été roi. Il a gagné plein de guerres. Il a construit. Il a donné de l'argent, des millions, pour construire un temple, etc. Est-ce qu'il a eu la gloire quand il était jeune? Est-ce qu'il a eu la gloire quand il a tué Goliath? Vous avez vu, on a composé des cantiques. Des gens composaient des cantiques sur ce qu'il avait fait. C'est pas beau ça? Vous vous demandez où je vais en venir, c'est ça, hein? Mais est-ce que c'est ça qui l'a rendu heureux? Non. Il a eu plein de choses qui peuvent satisfaire, comme on vient de l'introduire. Mais nous allons voir qu'il y a quatre choses qui procurent le bonheur. Et je pense vraiment que si un chrétien veut être heureux, il va écouter ce qu'il va entendre. Parce que vous savez, on écoute parfois, mais on écoute d'une oreille, mais on n'entend pas vraiment ce que Dieu veut vraiment nous dire. Alors, premièrement, il y a un bonheur qui vient très régulièrement dans la Bible, je ne sais pas si vous y avez fait attention, qui est procuré par la foi personnelle. C'est bien la foi des autres, c'est bien, c'est écrit, ça. Exhortez-vous, tout ça, donc il faut que chacun ait la foi. Mais il y a une foi personnelle, le juste, il vivra par sa foi. Et par exemple, alors là, il n'y a que l'embarras du choix, on était dans le psaume 34, on y revient, alors là, c'est impressionnant. C'est une ribambelle de versets qui s'enchaînent les uns aux autres par rapport au bonheur qui vient par la confiance. Psaume 34, verset 9. Je vous encourage vraiment à noter ces versets que je vais vous donner, je ne vais pas tous les expliquer. Mais ils sont écrits. Regardez, psaume 34, verset 9, je lis le verset « Santé, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Donc, il y a un bonheur qui vient par une vérité, pas par la croyance, pas par la présence à l'église, il n'est pas dit « heureux l'homme qui écoute des prédications ». Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Vous faites la différence entre aller à l'église, croire en Dieu, prier, et puis avoir une véritable confiance. Il y a des gens, ils font tout ça, ils vont à l'église, ils prient, ils chantent, ils connaissent tout par cœur, ils connaissent des centaines de cantiques par cœur, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Le bonheur, il n'est pas pour les chrétiens qui croient. Le bonheur, il est pour les chrétiens qui placent en Dieu leur confiance. Regardez, psaume 40, verset 5. C'est quelque chose d'absolument vital, ça. De faire la différence entre la croyance et la confiance. Il y a plein de gens qui marchent exactement comme les païens. Ils n'ont jamais confiance en Dieu. Et c'est terrible, ça. C'est terrible. Alors, un de plus, psaume 40, verset 5. Alors, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est pas qui prie. Est-ce que vous comprenez ou est-ce qu'il faut que je l'explique? Vous avez compris la différence? Je vous avais raconté mon témoignage quand j'étais à Tahiti et que j'étais dans un état de toujours de découragement. Et je disais, mais Seigneur, c'est pas possible. Je vous le résume, hein. C'est pas possible. Tu as dit dans ta parole que ceux qui priaient, ils renouvelaient leur force et qu'ils étaient comme les aigles. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, ça. Et j'étais arrêté dans ma prière. Dieu m'a dit, mais c'est pas écrit, ceux qui prient. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme les aigles. Et je peux vous assurer que ça a été une des plus grandes leçons dans mon ministère. La différence entre la prière et la façon de se confier en Dieu. Vous me suivez? Alors, et il y a tout le temps dans la Bible cette association entre le bonheur et la vraie foi. Une foi personnelle. Le bonheur qui vient par une vraie foi. Vous lui faites confiance. Il y a beaucoup de gens, ils ne font pas confiance en Dieu. Ils vont prier, je le répète, ils prient, mais en fin de compte, ils ne se reposent pas sur Dieu. Parce qu'en plus, le mot foi, on pourrait l'étayer avec plein de verbes. Il est parlé de se reposer en Dieu. C'est ça la foi. Il y a des gens, des fois, on sait se confier dans l'homme. Quand vous prenez l'avion, vous connaissez le pilote, vous? Vous allez voir, est-ce que tu as ton diplôme? Est-ce que tu as ton diplôme? Tu as fait combien de vols que tu as fait Non, vous faites, des fois, on met une confiance aveugle, c'est pas vrai? Dans plein de situations. Ça, c'est la foi. Je me repose, je fais confiance. C'est le psaume 91. Et je vous encourage à noter ces textes. Et à faire, je vous dis, prendre une concordance. Moi, je suis peiné quand je vois beaucoup de chrétiens qui n'ont que l'apparence. Je le répète. Et ça, c'est un travers, parce que chaque chrétien pourrait obtenir ce véritable bonheur. Regardez, psaume 91. La foi, c'est ça, verset premier. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, qu'est-ce qu'il est dit? Il repose. La foi, je me repose. Comme là, vous vous êtes reposé. Moi, je force parce que je suis debout. Quand on est debout, on fait un effort pour rester debout. Quand vous êtes assis, tout votre corps se repose. Vous faites confiance en quatre pieds en aluminium. Oui ou non? Est-ce que vous avez peur que un des pieds craque en ce moment? Est-ce que vous faites confiance aux quatre pieds de la chaise? Vous vous rendez compte comment on est capable des fois de se confier, vous vous reposez dans les pieds de votre chaise. Non? Bon. Et mes frères et sœurs, il faudrait que nous comprenions ces choses. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est un repos. Car c'est une chose d'aller à l'église, c'est une chose de se retrouver là, dans la communion fraternelle. Croyez-moi, c'en est une autre de se reposer, de se décharger. Est-ce que c'est écrit? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ça la foi. Mais je le fais. Je le fais. La foi, c'est se confier. La foi, c'est croire, bien sûr. Alors on pourrait multiplier. Quand il dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Vous avez confiance en Dieu? Vous avez vu le temps qu'on vit, et tout ça, et ça va s'aggraver. Beaucoup perdront la foi. Est-ce que c'est écrit que les gens, ils abandonneront la foi? Ben oui, pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas une vraie foi. Parce que quand on abandonne quelque chose, c'est que ça ne va pas nous servir beaucoup. Moi, je me souviens le jour où j'ai abandonné mon Solex. Il ne me servait plus, je l'avais abîmé. Moi, j'ai abandonné quelques trucs dans ma vie. C'est pourquoi? Parce que ça ne me servait plus. Quand on abandonne la foi, c'est que ça ne sert plus à rien. C'est qu'il y a longtemps que... Il y a longtemps que ça ne devait pas aller. La foi, c'est s'attendre à Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Psaume 105, verset 4. « Ayez recours à l'Éternel et en son appui. Cherchez continuellement sa face. » La foi, c'est s'abandonner à Dieu. Hein? Vous voyez, la foi qui contribue au bonheur. Parce que quand même, si Dieu parle tant du bonheur, c'est que nous aussi, nous devrions l'exprimer. Dire « Oui ». Je suis heureux. J'ai réussi sentimentalement, d'accord. Mais est-ce qu'on peut réussir? Est-ce qu'on peut être heureux même si on n'a pas réussi sa vie sentimentale? Voilà, c'est là la question. Est-ce qu'on peut être heureux même si on n'a pas réussi matériellement? Bien sûr. Moi, je peux vous dire qu'avec ma femme, pendant des années, on a été pauvres, mais pauvres de chez pauvres. Et je peux vous dire qu'on était heureux. Mais ce n'est pas pour annuler ce que j'ai dit au début. C'est pour vous expliquer qu'on peut être heureux avec certaines choses que Dieu va donner, même si, bien sûr, en plus, il y a la cerise sur le gâteau, parce que Dieu peut nous donner plein de choses au niveau matériel, etc. Alors, le bonheur, c'est dans une véritable foi. Si vous n'avez pas une véritable foi, vous ne serez pas heureux. Il y a des gens qui vont à l'église, qui prient une heure par jour, ils n'ont pas la foi. Ça fait pitié, ça. Ça fait pitié. Alors, la foi, il n'y a pas que la foi. On ne peut pas être heureux que par la foi. Que serait la foi sans la grâce? Psaume 23. Ça aussi, il faut que nous le réalisions. Que serait la foi sans la grâce de Dieu? Regardez ce que David, parce que c'est David qui l'exprime. Donc, on ne va prendre que des textes de David. Psaume 23, il dit au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est important, le oui. Dans la Bible, il y a souvent des oui. Oui, David a eu le bonheur de placer sa confiance en Dieu, c'est clair, mais parce que la grâce l'a accompagné tous les jours. Et pourtant, croyez-moi, il a eu des jours difficiles, croyez-moi. Sans la grâce, il n'y a pas de bonheur. Je sais bien que la foi est un des piliers pour obtenir le bonheur, mais je peux vous dire que la foi sans la grâce, ça ne sert à rien, ça ne servirait à rien. Et le verset commence par « oui ». Le verset commence par « oui ». S'il n'y avait pas la grâce, le verset il commencerait par « non ». Vous me suivez? Non, pourquoi? Eh bien parce que qui c'est qui le mérite, en fait? Qui le mérite ici? Qui mérite le bonheur? Qui mérite le pardon? Personne. La grâce, ça veut dire, oui, Dieu me l'accorde, Dieu me le donne. Non, je n'ai pas le droit à la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Les oui, vous savez, on lit, oui, tiens, c'est pour être, c'est pas poétique. Non, c'est pour que nous comprenions bien que personne n'a droit à la grâce en vérité, parce qu'on est tous des pécheurs, parce qu'on est minable, parce qu'on s'est paumé, parce qu'on a été indigne. Oui ou non? On n'a pas eu des moments difficiles? Même dans notre marche avec Dieu, etc. Non, parce que je n'ai pas fait les progrès. Dieu pourrait nous dire, ça fait un an que tu n'as pas fait de progrès. Est-ce que Dieu pourrait nous le dire parfois? Est-ce que tous les ans de votre vie chrétienne, vous avez fait des progrès? Donc Dieu pourrait dire non, la grâce ne t'accompagnera pas. Mais justement, parce que la grâce existe, on peut écrire oui. Oui, parce que je passerai par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but de nos réunions, c'est de dire je veux dépendre de Dieu. La loi, elle est venue par Moïse, la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Et la loi, nous l'avons tous enfreint, nous avons tous péché, la loi nous condamne. La loi, bien sûr, elle nous révèle que le Seigneur va venir, mais la grâce, elle est venue. Alléluia, sur la croix, Jésus a payé, comme on l'a entendu encore ce soir. Et c'est important de réaliser que le Seigneur, il est assis sur le trône de la grâce pour que je puisse se sortir, oui, je ne le mérite pas, mais la grâce de Dieu me le donne. Parce que la grâce, vous savez, en plus, il en parle comment? Comment il en parle, au fait? Oui, le bonheur et la grâce, il le conjugue comment? Au futur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est important, ça. C'est pas. Oui, le bonheur. Oui, Dieu m'a fait grâce il y avait 10 ans parce que j'avais fait des progrès. Et c'est vrai que là, Dieu me faisait grâce. Non. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le futur, c'est important quand même. Le présent, c'est important. Mais le futur, c'est pas important, le futur. Et même, il nous resterait qu'un an à vivre. Est-ce que c'est pas important qu'on puisse dire, moi, la dernière année qui me resterait à vivre, la grâce m'accompagnera. Et il faut le comprendre, ça. David, il n'a pas fait que des exploits. Parce que ça serait bien de dire, tiens, tel gars, il a fait que des exploits. Ben, c'est clair, lui pouvait écrire, le bonheur, la grâce m'accompagnera tout le long de ma vie. David, je peux vous dire qu'il n'a pas fait que des exploits. Bien sûr, il a tué Goliath. Il a pris sa fronde. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a tué Goliath. Mais qu'est-ce que c'est qui lui a permis de viser juste aussi? C'est la foi ou la grâce? Les deux. Si on peut faire certaines choses, bien sûr qu'il y a la foi. Mais bon, il y a la grâce de Dieu. Quand il est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Je sais. Mais je pense quand même qu'à 99%, il y a un peu la puissance de Dieu. Non? Vous ne croyez pas? Donc, mais il faut comprendre ces choses, mes frères. Le bonheur, il n'est pas... Parce qu'il y a des gens, oui, je crois, ils se confient dans leurs efforts, ils se confient dans leur foi. Il ne faut pas mettre sa foi dans sa foi. Il faut mettre sa foi en Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en vrac. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas heureux? Donc, il en parle au futur. Donc, le premier exploit, c'est vrai, il a tué Goliath. C'est vrai que c'est une grâce. Ce qui c'est qui lui a donné le courage de... Il était tout jeune, il avait quoi, 17 ans? Il a combattu ce géant, ce professionnel de la guerre. C'est une grâce de Dieu, non? Oui. La foi, la grâce, voilà. Pourquoi il est resté humble? Comment il a pu rester humble après la victoire? Par la foi ou par la grâce? Par la grâce. C'est une grâce de rester humble. Oui ou non? Voyez? Et c'est pour ça que David exprime le bonheur, mais il faut y réfléchir. Ben, c'est vrai que c'est le travail des pasteurs, ça c'est clair. Ça, c'est vrai, j'avoue que c'est à nous, pasteurs, de vous l'expliquer, de vous l'enseigner. Mais il faut le mémoriser. La grâce nous accompagnera, mes frères et sœurs. La grâce, vous avez vu la vie de David, il y a 40 livres dans la Bible qui parlent de David, c'est quand même impressionnant. Dieu a mis sur son chemin des hommes formidables. Qui c'est qui a fait ça? C'est pas la grâce de Dieu ça, quand Dieu met sur votre chemin des gens formidables? Est-ce que Dieu a mis sur votre chemin des gens formidables ou des gens bêtes? Ou des gens pénibles? Tiens, mais c'est une question qu'on peut quand même poser. Les deux, Non mais sérieusement, est-ce que c'est pas une grâce quand Dieu met sur notre chemin? Est-ce que Dieu peut le faire? Mais est-ce que c'est une prière, Seigneur, sur ma vie, dans mon chemin? Mets des gens bien. Est-ce que Dieu peut le faire parce qu'on n'est pas toujours bien accompagné? Et vous voyez, on pourrait prendre... Tout ça, on en parle sans en parler parce qu'on n'y pense peut-être pas. Mais ça vaut quand même la peine. C'est lui qui a dit « Heureux l'homme ». Dans le psaume 32, on est dans les psaumes, on n'est pas loin, oui. Regardez dans le psaume 32. Mais il faut le comprendre, ce psaume, il commence par la fin, en vérité. Il exprime le bonheur, pourquoi? Pourquoi il exprime le bonheur, David? Parce qu'il a eu que des exploits? Il a fait que des exploits, David? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Vous le croyez, ça, que Dieu pardonne? Vous le croyez que Dieu pardonne tous les péchés, quand on les lui confie, bien sûr? Parce qu'il le dit, tant que je me suis tué, etc. Ce psaume, c'est un psaume de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il croit au pardon. Parce qu'on pourrait dire, oh là, on pourrait dire, oui, mais oh, David, on pourrait faire la liste. Moi, je pourrais être très déséquilibré et prendre la liste de ses exploits. Est-ce qu'on pourrait quand même prendre une trentaine de textes qui parlent des exploits de David? Sans problème. Hein? Mais moi, j'ai presque envie de vous dire que ça n'a pas été un homme parfait. Parce qu'il a commis l'adultère. C'est grave ou c'est pas grave? Il a commis l'adultère, il a fait tuer un homme, pire encore, vous voyez. Et en plus, il n'a pas fait tuer un brigand, là. Il a fait tuer quelqu'un de bien. Moi, je fais la différence, quand même. Hein. Je vous avoue que faire tuer le gars qu'il a fait tuer, franchement, il fallait pas être en forme, je vous le dis. Hein. Il a fait des choses sanguinaires, il est passé pour fou, il a menti. Ça vaudrait la peine de prendre tous les travers de David. C'est pas pour le critiquer. Il méritait la... Qu'est-ce qu'il méritait, David, au fait? Il méritait la mort, la lapidation, le jugement. Pourquoi il n'a pas été jugé? Parce que quand même, on pourrait dire, tiens, mais il y a un passe-droit, il y a un truc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme, il n'a pas été jugé? Pardon? Parce qu'il y avait la grâce. Parce qu'il y avait une vraie repentance, oui, comme dit Mme Guilhebert. Il y avait une vraie repentance. Pourquoi il n'a pas été... Parce que c'est des questions que nous, on pourrait se poser. Tiens, mais nous aussi, on a commis des erreurs. Nous aussi, on a eu nos travers. Nous aussi, on a fait nos exploits. Bon, d'accord. Mais on a eu quand même nos moments difficiles. Pourquoi il n'a pas été jugé par la loi? Parce que, quand il a été confronté à son péché, il l'a reconnu. La grâce, elle est réelle. Elle est expérimentable. Quand je suis confronté à mon péché, je dis oui, j'ai péché. Oui, je suis cet homme-là. Il le dit. Quand Nathan le confronte, alors qu'il aurait pu lui aussi faire tuer Nathan, il dit je suis cet homme-là. J'ai péché. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés? C'est écrit ou c'est pas écrit? Et David a dit si tu me juges, tu seras juste dans ton jugement. Il aurait pu trouver des circonstances, comme on entend aujourd'hui. Mais vous ne comprenez pas, monsieur Go. Oui, si j'ai fait ça, vous comprenez, ce n'est pas facile. Si vous étiez à ma place, ouais, peut-être que vous auriez fait pareil. C'est facile de juger, alors que je ne juge pas. C'est facile de trouver des excuses. Il aurait pu, vous savez, quand il a commis l'adultère, il aurait pu accuser. Qui c'est qu'il aurait pu accuser? Allez, aidez-moi. aidez-moi à faire des prédications. Ben voilà, il aurait pu dire, écoute Nathan, ne prends pas la tête. La femme, elle se baignait, elle était toute nue, elle se baignait là, en face. C'est sa faute. Écoute Nathan, je t'assure Nathan, bien sûr, mais c'est quand même sa faute. Est-ce qu'il aurait pu, on peut trouver toujours des circonstances, hein? Il aurait pu excuser la fatigue. J'étais crevé, si tu savais, je n'ai pas fait gaffe. Il y a déjà, mais combien de gens me disent, ah mais vous ne comprenez pas, je suis crevé en ce moment. C'est pour ça. Est-ce qu'il n'aurait pas pu accuser le diable? Parce que le diable, il a bon dos aussi. Mais Nathan, réfléchis, je suis le roi. Le diable, il m'a mis une peau de banane, je me suis fait piéger. Tu vas pas me choper la tête avec. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Eh ouais. En plus que lui, il avait qu'à faire un signe, il avait qu'à faire ça à un de ses gardes. Et Nathan, 3 minutes après, il connaissait le sort du riz. C'était exactement pareil. Mais s'il avait fait ça, s'il avait trouvé des excuses, il n'aurait pas eu part à la grâce. Et quand on cherche des excuses, mais c'est mon caractère, moi je suis méridional. Vous riez? Mais si vous saviez le nombre de fois, ah mais moi, je viens de Corse. Alors tous les Corses qui m'écoutent, c'est une image. Tous les Corses, je sais qu'il y a des Corses qui m'écoutent. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous cherchez des excuses, vous n'aurez jamais droit à la grâce de Dieu. La grâce, elle n'est pas pour les gens qui trouvent des excuses. La grâce, elle est pour les gens qui se reconnaissent coupables. On accuse l'Église. Ouais, mais l'Église, ils sont tous pareils. Si vous accusez l'Église, et vous qui m'écoutez, retenez-le bien. Si vous accusez l'Église, vous n'aurez jamais la grâce de Dieu. Et vous ne pourrez jamais citer avec cet esprit positif, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il ne faut jamais accuser les autres. Il faut être vrai soi-même. David a eu part à la grâce de Dieu. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il a été heureux. Parce qu'il a été honnête. Est-ce que vous voulez continuer à recevoir la grâce de Dieu? Eh bien, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. J'ai combien péché? Je l'assume. Je le répare, je le règle. Le salut, c'est par grâce. Vous le savez, le salut, c'est par grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Donc, il y a toujours la conjonction des deux. C'est la conjonction de la grâce et de la foi qui donne le salut. Mais c'est pareil pour la vie. La vie spirituelle que l'on peut conjuguer au futur se gagnera par cette conjonction. Oui, la grâce m'accompagnera si je vis par la foi, mais je resterai honnête. Le bonheur par la foi, le bonheur par la grâce. Troisième élément de bonheur, psaume 25. Donc, dans le psaume 25, au verset 12, c'est toujours David qui exprime une autre pensée qui n'est plus développée dans les églises. C'est très très rare que cette pensée soit développée alors qu'elle revient des centaines de fois. Vous avez entendu? Des centaines de fois. C'est pour vous dire combien c'est important. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Il n'est pas dit quel est l'homme qui aime Dieu, qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme, qu'est-ce qu'elle fera son âme? Elle reposera dans le bonheur. Alléluia. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il y a une catégorie de chrétiens sur qui le bonheur reposera. Ce sont les gens qui craignent Dieu. Ils ont un respect pour les choses de Dieu. Et je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu, enfin ils aiment Dieu. Ils croient en Dieu. Quand on aime Dieu, on garde sa parole. Mais il y a un respect. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, etc. Le bonheur par la direction divine. C'est beau la direction divine, oui ou non? D'avoir cette approbation intérieure, cette paix intérieure. Quel est l'homme qui craint? Il n'y a que Dieu qui... Moi, imagine, je peux vous dire, oui, je crains Dieu, mais est-ce que c'est vrai? Mais non, vous ne savez pas si c'est vrai. Je peux faire 50 études sur la crainte de l'Éternel. La crainte, c'est quelque chose de profond. Lisez, prenez une concordance, vous allez voir, c'est presque inépuisable. De lire tous les textes sur la crainte de Job, c'était un homme qui aimait Dieu et qui craignait Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? En craignant Dieu, il se détournait du mal. La crainte de Dieu, c'est se détourner du mal. Un des aspects, bien sûr, de la crainte de Dieu. Donc il faut que nous laissions le Seigneur nous indiquer les choix que nous avons à faire. Dieu ne choisira pas pour nous. Alors ne commencez pas, parce qu'il y a des gens, ils sont tellement spirituels, presque ils vont aller au restaurant. Seigneur, est-ce que je prends la salade de gésier? Est-ce que je prends le foie gras? Non, écoutez, je pense qu'à ce niveau-là, prenez ce que vous aimez. Non mais, vous savez, ça vous fait rire. Mais on voit de ces trucs. Quand il est dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, Dieu ne choisira pas notre place. C'est à nous de choisir. Mais de choisir quelque chose que Dieu approuve. Quand moi je vois le nombre de jeunes filles qui m'ont dit, Monsieur Gau, je décide de me marier avec un inconverti, il changera, je l'amènerai à la foi. Je dis, écoute, tu ne peux même pas te changer toute seule, tu crois que tu vas changer quelqu'un? Oui, parce que je l'aime. On n'a pas le pouvoir de changer quelqu'un. Vous avez vu les efforts qu'il faut faire sur soi pour essayer de se changer soi-même? Vous trouvez que c'est facile de faire des progrès soi-même? Alors, qui aurait le culot de penser qu'il peut changer les autres? Soyons intelligents. Et je crois que si Dieu nous demande de ne pas nous mettre avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, il vaut mieux en tenir compte. Après, Dieu nous laisse libre. Bon, il y a des gens qui sont venus me voir. Monsieur Gau, Dieu m'a dit que je me marierais avec Ernestine. Je crois que j'invente. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, si Dieu vous l'a dit, faites-le. Vous n'allez pas converti. Eh bien, faites-le quand même, si Dieu vous l'a dit. Ils viennent nous voir pour qu'on les approuve dans des choix que Dieu n'approuve pas. Mais après, je leur dis, mais si vous voulez faire une erreur, faites-la. Nous, il ne faut pas oublier, on est des pasteurs, on n'est pas des gourous. L'Éternel vous montrera le chemin à suivre. Moi, je crois que si nous choisissons ce que le Seigneur nous montrera, eh bien, nous aurons le bonheur. Et c'est vaut la peine de dire, Seigneur, montre-moi la crainte de Dieu. Bien sûr, si d'un côté vous allez à l'église, vous priez, vous lisez votre Bible, vous servez Dieu, même qu'importe. Mais s'il n'y a pas cette crainte de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je le répète, c'est se détourner du mal. C'est important, mes frères et sœurs. Regardez le comportement de David. C'est bien, moi je trouve qu'elle est bien la vie de David. Je ne suis pas étonné que Dieu ait utilisé David pour exprimer le bonheur. La Bible, c'est quoi la Bible? C'est un livre de conseils. On l'appellera Dieu Tout-Puissant, le conseiller. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et c'est vrai que lorsqu'on se tient devant Dieu, il y a cette approbation intérieure qui vient. Moi, je me souviens quand j'ai dû choisir pour Sainte-Agne. Vous savez, j'étais en Polynésie, je vous le répète, parce que je me rappelle, je savais que j'allais partir, et j'avais reçu un fax avec la liste de 14 églises disponibles. 14 églises qui se claquent, clac, clac, 14. Et j'ai lu le fax, et j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, montre-moi l'église où je dois aller. Et quand j'ai lu Toulouse-Saint-Agne, j'ai eu cette paix. Tout le monde m'a déconseillé de venir, mais moi j'avais cette paix. Pourquoi? Je crois que le Seigneur me l'a montré. Est-ce que j'ai bien fait d'après vous? Oui, moi j'ai bien fait. Enfin, je sais que j'ai bien fait, je sais que c'était la volonté du Seigneur. Voilà. Chercher dans la parole de Dieu le conseil de Dieu, c'est merveilleux. C'est beau de chercher le conseil de Dieu, non? Croyez-moi, le Seigneur, il ne s'amuse pas. Il ne joue pas à cache-cache. Il y a des gens, des fois, quand ils me parlent, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Le Seigneur, il ne joue pas avec nous. Nous sommes ses enfants. Moi, j'en ai des enfants, on a ri ensemble, mais quand ça concerne les choses sérieuses, on ne rit pas, je ne ris pas. Le Seigneur, il ne se moque pas de nous. Si vous faites ce que la Bible vous conseille, vous serez heureux. Vous êtes d'accord avec ce verset? C'est important ça. Hein? Alors, psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, même aux pécheurs, voyez. Je l'ai pris ce verset esprit. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Voyez, c'est clair, Dieu montre, même aux pécheurs. Si quelqu'un ce soir est perdu, Dieu va vous montrer que son salut, ça passe par le calvaire. Ça passe pas par l'église évangélique, par les assemblées de Dieu. Le salut, c'est pas par une dénomination. Il vous montrera que vous serez sauvés au calvaire. Son sang a été versé pour que vous obteniez le pardon des péchés. Quatrièmement, parce que je vois que le retourne, quatrièmement, le quatrième pilier, alors on va lire dans le psaume 65. Vous voyez comment Dieu a voulu qu'on sache ce qui nous rend heureux. Psaume 65. Verset 5. Ça, c'est peut-être un verset qui va interpeller plusieurs, tant mieux. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Le bonheur de l'Église. Oui, personne n'a dit oui, fait moi. Est-ce que c'est bien d'avoir une église, des frères, des sœurs? Jonathan, est-ce que tu es content d'avoir Jonathan à ta droite, à ta gauche? Non, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience que l'on peut être heureux parce qu'on est fidèle au service que Dieu nous demande dans sa maison? C'est ça qu'on a lu. Est-ce que vous en êtes conscient? Heureux parce que j'aime l'Église. Et c'est vrai que moi je suis peiné quand je vois le. Quand on commence à accuser l'Église, n'accusez jamais l'Église. Accusez-vous à vous. Et David, il a appris le bonheur. Je vous assure pourtant, sa vie n'a pas été facile. Il a appris le bonheur de se retrouver dans la présence de Dieu, pour que dans la présence de Dieu, il puisse avoir le privilège d'être fidèle à la maison du Seigneur. Et je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est une prière qui vous préoccupe, ça? Tiens, qu'est-ce que je dois faire dans la maison du Seigneur? Nous sommes le temple de Dieu, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Nous sommes le temple de Dieu et je veux avoir ce bonheur. Est-ce que la présence de Dieu, c'est important pour vous? Est-ce que l'Église, c'est important? Ce soir, on est dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous? Ben, je pense. Mais on peut y être aussi par superstition, oui ou non? Ben oui, on peut y être par superstition en disant, tiens, je vais à l'église, donc Dieu doit être de mon côté, je suis avec lui, donc ça devrait être bien. Non, c'est pas ça. Mais le bonheur, je suis le temple de Dieu, je suis dans la présence. Alors c'est vrai que tout ça, ça nous amène à gérer plusieurs choses, comme la solitude, la vie en société, avec les autres. Qu'est-ce que vous préférez, vous, par exemple, la solitude ou la vie avec les autres? Qu'est-ce que vous préférez? Les deux. Voilà, ça c'est bien. Je vous dis, il faut aimer la solitude. Il faut aimer la solitude, mais il faut aimer la compagnie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça devrait nous interpeller, ça. Parce qu'il y a des gens, ils aiment que la solitude. Ou il y a des gens, ils ne supportent pas la solitude. Mais après, on ne peut pas dire 50-50, ça peut être 40-60, 35, 65, etc. Ce n'est pas grave. Mais on devrait avoir un temps où on se plaît seul avec Dieu, et on devrait avoir un temps où on se plaît être avec les autres pour servir. Vous voyez? Après, il faut que chacun trouve son équilibre. Je suis persuadé que pour les pasteurs, on devrait aimer la solitude, par exemple, à 70% minimum. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être plus. Peut-être 80%. Pourquoi? Pourquoi un pasteur devrait aimer la solitude? Et voilà, parce qu'il doit se tenir devant Dieu. Et les 30% qui lui restent, il doit aimer la compagnie des frères et des sœurs pour apporter ce qu'il a reçu. Et voilà, il y a des gens qui ne supportent pas prendre la solitude et ils mettent tout le monde en braque parce qu'ils ne reçoivent pas pour donner. Et c'est pareil pour chacun. Vous le comprenez très bien avec le ministère pastoral, mais vous devez le saisir pour vous aussi. Donc, on sait qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu, la solitude. Quand tu pries, entre dans ta chambre, et ton père qui voit dans le secret, puis paf, Dieu dit presque de suite après, lorsque deux ou trois vous êtes assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est quand je suis seul ou quand on est plusieurs? Eh bien, il faut les deux. Et mes frères et sœurs, le bonheur, c'est comprendre ces choses. Il y a des gens, ils veulent le bonheur. La dernière publicité, c'était Hollywood Chewing Gum. Je serais heureux, machin de chewing gum. Eh bien, essayez, pendant 2-3 ans, vous allez voir que ce n'est pas le chewing gum qui va vous rendre heureux. Ce n'est pas le foot. Vous avez vu les supporters de foot, comment ils sont heureux? Ouais. La présence de Dieu, la bénédiction de l'Église. Moi, je vous dis, apprenez à aimer l'Église. C'est important, ça. Enfin, si on y est, c'est que normalement, ça doit aller. Si nos yeux ne s'ouvrent pas sur ces choses, vous voyez, parce qu'il y a les yeux spirituels, il y a les oreilles spirituelles, il faut entendre ces choses. Quand ce matin je lisais les évangiles, on voit qu'ils ne comprenaient pas, Jésus leur parlait, mais ils ne comprenaient pas. Et Jésus après prenait les disciples à part, et à part il leur expliquait. Et on le voit, les disciples s'approchèrent de lui, explique-nous. Parce qu'est-ce qu'on comprend pas tout? Peut-être que ce soir vous dites, tiens, il nous a parlé sur le bonheur, j'ai compris qu'il y avait quatre piliers que je dois développer. Mais maintenant, il va falloir que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles s'ouvrent, que mon cœur s'ouvre. Je vais relire les textes sur le bonheur, sur la crainte de l'Éternel. Et voilà, et mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on s'enracine. Quelqu'un tout à l'heure priait dans l'église pour s'enraciner, c'est ça. La présence de Dieu, il faut la réaliser. Quand vous êtes seul dans votre chambre, quand vous priez, Dieu est là. Il vous voit et il vous entend. Ne commencez pas à douter si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ça, c'est clair. Alors David a été heureux, pas parce qu'il a été roi, pas parce qu'il a été riche, pas parce qu'il avait un palais, pas parce qu'il avait des serviteurs, pas parce qu'il a remporté des batailles. David a été heureux parce qu'il avait une véritable foi en Dieu. Il a été heureux parce qu'il a goûté à la grâce. Il a été heureux parce qu'il s'est laissé guider par la crainte. Et il a été heureux parce qu'il vivait dans la présence de Dieu pour servir les autres. Et si nous nous approprions ces choses, je peux vous dire que nous serons heureux. David exprime le bonheur. Oui, dans ce monde détruit, enténébré, apostat, dans ce monde qui court vers la colère, nous pouvons goûter au bonheur. Alors, merci Seigneur, s'il y a la cerise sur le gâteau, Dieu dit qu'il nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Je le dis parce que je crois que beaucoup de chrétiens sont tellement déséquilibrés. Moi, j'ai connu une femme qui, elle était très, très élégante, toujours très élégante, très bien mise. Et quand elle s'est convertie, elle s'est négligée, elle se peignait presque plus. Si elle tombait un bouton, elle mettait une épingle double à la place. Son mari ne la reconnaissait pas et ça s'est très très mal terminé. Elle dit « Oh, je suis chrétienne maintenant, c'est pas la peine, tout ça c'est le monde. » Je pense que c'est normal d'être bien, de bien se tenir, non? Vous voyez, c'est triste. Alors, c'est où ça? C'est dans 1 Corinthiens ou dans, attendez, 1 Corinthiens 9. On va le lire ensemble parce que tout ça, ça contribue à l'équilibre. Alors, que je ne me trompe pas. Non, c'est 2 Corinthiens cette affaire. Alors, excusez-moi, quand il est dit que Dieu nous donne toutes choses afin... Ah, c'est ça, 2 Corinthiens 9, 8. Voilà, mais c'est important, mes frères et sœurs, parce qu'il y a quand même de la jouissance dans des choses de la terre, parce que c'est Dieu qui nous les donne. Il faut être équilibré, vous savez, mes frères et sœurs. Moi, j'ai tellement vu de chrétiens déséquilibrés. Vous voyez, il y a le bonheur par ces quatre vertus, mais quand même... 2 Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et vous pouvez dire « Amen ». Eh ouais, Dieu peut, même dans ce temps difficile, Dieu peut vous combler. Que cela serve également à donner aux autres, parce que c'est le but, mais Dieu est un Dieu qui comble. Alléluia. Le bonheur, c'est quand même, Dieu en parle. Et là, j'ai fait que brosser un cadre que David exprime, qui est là, qui répond à une question. Qui nous fera voir le bonheur? Cette question, elle n'est pas là. Si Dieu la pose, c'est parce qu'il doit nous la poser. Mais moi, je voudrais croire que c'est un des piliers de notre témoignage, qu'on donne un bon témoignage, qu'on soit heureux. Vous n'avez pas envie? Vous n'avez pas envie que, même dans les circonstances pénibles, je suis en paix. On va se recueillir quelques instants. Il y a une sœur dans l'église qui a demandé qu'on prie pour elle, qu'on lui fasse une onction d'huile.